Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans ce hors-série quotidien de l'Anglais Code, tous les jours, disponible à partir de 18h sur rtl.fr, l'économie du corona.
Bonjour à tous, c'est Catherine Mangin, je suis directrice adjointe de l'information à RTL. Tous les jours, je dialogue avec François sur ce thème de l'économie au temps du corona et je relaye aussi les questions des internautes et des auditeurs. Vos questions, qui sont déjà très nombreuses, afin de mieux comprendre comment l'économie, sous toutes ses formes, s'adapte à cette crise inédite. Aujourd'hui, nous allons parler du télétravail. Le télétravail s'impose par nécessité, au point que certains pronostiquent aujourd'hui un essor durable pour cette forme d'activité. Il s'impose d'autant plus qu'il y a aujourd'hui sur la planète 1 milliard de personnes confinées. C'est vraiment un mouvement durable, François.
C'est vrai que je suis étonné comme vous que bon nombre d'experts disent on a franchi un cap au-delà duquel les choses ne seront plus pareilles après. C'est toujours la tentation, hein, d'ailleurs, quand on vit une crise, que d'imaginer qu'elle va changer en profondeur les habitudes. Je ne crois pas du tout à l'essor durable du télétravail, en fait, parce que aujourd'hui on le fait, vous l'avez dit, par nécessité, on est éloigné de nos lieux de travail parce que à cause du confinement. Reste que la valeur du travail, pour nous, c'est bien sûr le travail, mais c'est aussi autre chose que le travail. Ce sont les contacts quotidiens avec les gens qui sont nos collègues, ceux qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas. Et cette convivialité qui nous fait d'ailleurs quitter l'ambiance familiale pour retrouver quelque chose de différent à quoi on est attaché. Et je pense qu'on va s'en rendre compte, à l'épreuve de cette privation en quelque sorte, on va réaliser que finalement, aller au travail, bien sûr c'est une contrainte. Il faut se lever toujours à la même heure, etc., les transports en commun. Mais pour autant, ça nous plonge dans un autre univers auquel, sans que nous ne le réalisions jusqu'ici, nous tenions beaucoup.
Et en fait, on s'en rencontre un tout petit peu parce que lorsque les gens témoignent aujourd'hui de la manière dont ils organisent leur télétravail, souvent chez eux, ils font finalement, ils s'organisent, même si les appartements sont très petits, pour avoir l'endroit du télétravail, le bureau finalement reconstitué à la maison et puis le lieu de vie. Hein. On cherche quand même à séparer les deux. Alors, Daniel Cohen disait ce week-end, en parlant du télétravail, qu'il s'agissait en sorte d'un retour au travail à la chaîne. Mais enfin, François, on ne peut quand même pas dire aujourd'hui que les gens se retrouvent ou bien devant des métiers à tisser qui font du bruit, ou bien en train de désosser des poulets, ou bien en train d'assembler des voitures, c'est quand même pas ça.
Non, pas du tout, d'autant que c'est vrai que c'est réservé aux travailleurs dans le secteur des services, c'est-à-dire les gens qui ne fabriquent pas, hein, donc qui sont plutôt dans des métiers, sinon intellectuels, du moins qui peuvent justement se traiter par les nouvelles technologies. Mais plutôt que retour au travail à la chaîne, moi je vois plutôt le retour travail payé à la tâche, c'est-à-dire où on est jugé sur ce qu'on a réalisé dans la journée ou dans la semaine, alors qu'auparavant, bien sûr, cet élément-là jouait, mais la présence sur le lieu de travail comptait tout autant pour évaluer l'investissement d'un salarié dans son travail. Et je crois que là encore, cette affaire va nous faire réaliser que la mesure du temps de travail, c'est-à-dire le fait de compter les heures et de faire qu'on arrive le matin et qu'on part le soir, eh bien finalement, c'est aussi une avancée sociale parce que ça vous libère non pas de l'obligation de réussir, et chacun veut réussir dans son travail, mais pour autant de l'obligation stricte et mécanique d'avoir à réaliser quelque chose. Parce que justement, vous pouvez passer du temps à en perdre. C'est-à-dire passer du temps à échanger avec vos collègues. Vous savez que c'est souvent dans ces réunions informelles autour d'une tasse de café ou avec la pause cigarette à l'extérieur dans la rue que les idées les plus originales naissent. Et nous sommes aujourd'hui privés de ça. Du coup, on se retrouve uniquement mesuré sur sa contribution brute. Et de ce point de vue, sans aller jusqu'à ce que dit Daniel Cohen, je partage avec lui l'idée que ça n'est pas forcément une avancée sociale.
Oui, et d'ailleurs, c'est aussi frappant de voir que, encore une fois, dans ces nouveaux systèmes d'organisation du télétravail, il y a des entreprises et des gens qui ont inventé le café virtuel, c'est-à-dire la machine à café virtuel. Oui, tous les matins, vous vous retrouvez devant votre ordinateur avec une tasse de café. Et c'est un peu ce que vous décrivez sur ce moment d'échange qui est effectivement très important et très fructueux pour la circulation des idées. Mais alors quand même, tout cela, ce télétravail, c'est peut-être ce qui permettra de maintenir maintenir l'économie. Et ça, ça n'avait pas été possible du tout lors de la dernière grande crise économique.
C'est tout à fait vrai, pour deux raisons d'ailleurs. D'abord parce que les réseaux n'avaient pas les capacités qu'ils ont aujourd'hui, hein, et les possibilités techniques de pouvoir joindre en même temps 8, 10 ou 12 personnes aux quatre coins du monde. Et puis parce que la part des services dans l'économie est beaucoup plus importante qu'en 2008. Hein. Elle ne cesse de progresser dans la plupart des économies du monde, et en particulier dans les pays qu'on appelle développés. Donc ça nous permet de maintenir cette économie non pas en état normal, mais au moins sous respirateur, si je puis me permettre la métaphore. Pour autant, là aussi, on va redécouvrir, ou peut-être même découvrir, qu'une économie, c'est bien sûr des services, mais c'est aussi la production de biens réels. Hein, on voit aujourd'hui le stress qui monte avec les inquiétudes que nous pouvons avoir pour trouver des produits alimentaires ou des biens physiques dont nous avons besoin et dont nous ne sommes pas sûrs que la livraison arrivera à temps parce que le livreur lui-même n'est pas sûr que la production sera effectuée. Donc, certes, les services montent en puissance. Certes, ils peuvent être en partie substitués par des échanges virtuels, mais une économie et, de façon plus générale, la vie, ça n'est pas seulement les services et le virtuel, c'est aussi la production et la consommation de biens bien réels.
Et ça, d'ailleurs, c'est un sujet, un continent en soi sur lequel on reviendra, parce que c'est effectivement une des problématiques du moment. Les questions du jour. Une première question très concrète. Pourquoi les sociétés d'autoroutes continuent-elles de faire payer les péages aux chauffeurs routiers qui travaillent dur pour ravitailler les hypermarchés? Est-ce qu'il ne faudrait pas rendre tout cela gratuit?
Je suis pas sûr parce que si on entre dans l'économie de la gratuité totale, à ce moment-là, ça veut dire que l'État se substitue à nous tous et règle justement l'ensemble des transactions. On entre dans un autre monde qui aurait beaucoup d'inconvénients. Les sociétés elles-mêmes, bon, c'est vrai qu'elles font de l'argent en ce moment, mais cet argent n'est pas payé par les routiers eux-mêmes, il faut le rappeler. Hein, il est payé par leurs employeurs et eux-mêmes les refacturent aux hypermarchés qui eux-mêmes nous les refacturent. C'est-à-dire que nous payons, nous, consommateurs, pour l'acheminement des produits à un endroit qui peut se situer à 200 mètres ou à 2 km de notre domicile parce que ça nous simplifie la vie. C'est normal, c'est le jeu de l'économie de marché et je pense qu'il faut le préserver. Après, que les routiers travaillent dur, c'est incontestable, c'est un autre sujet. D'ailleurs, le débat a eu lieu il y a 2 ou 3 jours, il n'est pas terminé. C'est vrai que ceux qui disent... Bien, nous sommes obligés de travailler physiquement alors que certains peuvent partir dans leur maison de campagne ou dans leur maison tout court et rester chez eux. Nous sommes exposés à un risque bien plus important. C'est un discours qu'on doit entendre. Et il y a des réponses à apporter de la part des entreprises sous une double forme, avec des précautions liées à justement diminuer ces risques de contagion, et puis peut-être avec des augmentations de salaire ou des primes. Ouais, oui, c'est des sujets qui ne doivent pas être tabous et qu'il faut aborder parce qu'ils sont absolument légitimes.
Ouais, et sinon, on aura de toute façon un problème de ressources de main-d'œuvre pour assurer toutes ces fonctions essentielles. Et une deuxième question, certaines compagnies aériennes proposent aujourd'hui des billets retour aux Français bloqués à l'étranger, mais à des tarifs absolument exorbitants. On m'a cité par exemple le cas d'un billet pour rentrer d'Australie à 5 000 €. Est-ce qu'elles ont tort, les compagnies aériennes, de pratiquer ce genre de tarif?
Oh, écoutez, c'est scandaleux. Hein, et on ne peut pas dire autre chose. Parce que, justement, elles profitent du dénuement psychologique de ces clients qui sont éloignés de leur patrie, de leur famille, pour leur facturer des prix complètement prohibitifs. Hein, c'est vrai que j'ai vu ça aussi, des prix multipliés par 3. Alors, la raréfaction des liaisons justifierait peut-être que les tarifs bougent un peu, mais absolument pas dans ces proportions, parce qu'il s'agit justement de rapatrier nos compatriotes. Je parle de l'exemple français, mais ça peut se répliquer dans l'ensemble des pays. J'ajouterais que c'est d'autant plus saugrenu que toutes ces compagnies aériennes, compte tenu de l'effondrement du trafic, vont très bientôt être contraintes de tendre la sébille au gouvernement, hein, en attendant de sa part des aides financières substantielles, voire une nationalisation. Que la collectivité soit sollicitée lorsque ces entreprises sont mises en péril parce qu'elles représentent quelque chose de stratégique pour le pays, c'est indispensable d'avoir une compagnie nationale, au moins une, mais qu'elle profite justement dans les moments de détresse
de
faire du business dans ces hauteurs-là, là, pour le coup, c'est vrai que c'est non seulement étonnant, mais que c'est même répréhensible.
Merci François.
Merci Catherine.
Vous pouvez bien sûr retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL sur rtl.fr ainsi que sur toutes vos plateformes favorites. À demain.
À demain.